Bonjour à toutes et à tous, Didier Delatte sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, et que je vous raconte en suivant un ordre alphabétique un peu aléatoire, je l'avoue, au gré de l'actualité ou tout simplement de mes envies. Aujourd'hui, pour mes très chers amis du groupe des philosophes, ils se reconnaîtront, qui n'ont pas tous entendu l'émission que j'avais écrite et diffusée en novembre 2021, en pleine épidémie de Covid, eh bien, rediffusion pour vous spécialement, mes amis, mais aussi pour tous les auditeurs d'IDFM. Aujourd'hui, rendez-vous compte consacré à la lettre S, S comme secret, mais aussi S comme silence. Mon père le disait souvent, les secrets doivent mourir en silence. Pourtant, en ce samedi après-midi du mois de juillet 2021, ce sont bien des cris qui me sortent de cette torpeur qui engourdit mes derniers mois de vie. Oui, dans 2 ans, je serai centenaire, rendez-vous compte. Non au pass nazitaire, vocifère des manifestants anti-vax qui portent une étoile jaune en se proclamant résistant, mais comment osent-ils? Ce 15 juillet 1942, le lycéen que je suis attend avec la plus vive impatience les résultats du baccalauréat qui seront proclamés le lendemain. J'espère bien être le premier de ma famille à obtenir cet honneur. Je deviendrai ainsi la fierté de tous et d'abord de moi-même. Pour la première fois, Gabriel, un camarade de classe, me parle comme à un homme. J'apprends qu'il est juif par sa mère et que celle-ci, une Allemande, a fui attend la menace nazie après l'assassinat de son mari par les hordes brunes. Sa mère qui espère ainsi échapper en France au vent mauvais qui emporte l'humanité de ça de là, pareil à la feuille morte. Ouais, ce sont les vers à peine adaptés de Paul Verlaine et de sa chanson d'automne qui me viennent à l'esprit pendant que mon ami poursuit. Sa mère a épousé en seconde noce un chrétien français. À Gabriel, son fils, elle a fait passer sa communion catholique. Muni de son précieux certificat de baptême, il n'a jamais porté l'étoile jaune. En zone occupée, le nord et l'est de la France, dès le mois de septembre 1940, un décret des Allemands a pourtant ordonné aux Juifs français et étrangers de se présenter dans les mairies et les commissariats de police. Là, on les enregistre et on leur vend, oui, on leur vend, des étoiles jaunes, 9 francs pièces, qu'ils doivent coudre sur leurs vêtements. La mère de Gabriel s'est soustraite à cette obligation. Elle ne se rend pas au commissariat, ni elle ni Gabriel ne porteront l'étoile. Chaque jour, elle craint pourtant d'être dénoncée par une voisine qui sait, une collègue de bureau jalouse, une cousine haineuse. Malgré cela, Gabriel, son fils, reste juif. Oui, il reste juif aux yeux des autorités de la collaboration si un jour elle se penche sur ses origines. Il m'apprend aussi qu'il s'est engagé dans la résistance. J'en demeure admiratif et un peu intimidé. Une action est prévue demain lors de la proclamation des résultats du bachot, m'explique-t-il. On peut compter sur toi, Nicolas ? Abasourdi, je bredouille et sous son regard déjà méprisant, je donne mon accord. Ouais, tu n'as rien à craindre, précise-t-il. La police n'aura pas le temps d'intervenir. Par contre, tu ne devras plus retourner à ton domicile. Je souris, ça tombe bien, dès les résultats du bac connu, je dois de toute façon quitter Paris avec mon père pour la Haute-Loire, où l'oncle Louis m'attend pour les grandes vacances. Moi, conclut Gabriel, je disparaîtrai dans la clandestinité, je prendrai juste le temps de mettre ma mère à l'abri. La nuit, la peur m'empêche de dormir. Je n'aurai pas le courage, je me connais trop. Au matin, mes traits tirés n'échappent pas à Lucien, le fils de la concierge. 23 ans, désœuvré, blond, épaules larges, cerveau étroit, comme on les aime à l'époque, quoi. Lucien ne me lâche pas de toute la matinée. Il m'entraîne au café, m'offre mes premières bières, mes premières cigarettes. J'y ai bien droit, quoi. Après tout, je vais être bachelier. Je parle beaucoup, sans doute, beaucoup trop. Vers midi, Lucien s'absente. Un rendez-vous galant, m'explique-t-il. Je ne peux masquer une admiration teintée de jalousie. Mais dès son départ, je me précipite dans la cour du troquet pour vomir l'alcool et la fumée qui me brouillent l'esprit. À son retour, Lucien insiste pour m'accompagner. « Pour fêter mon succès », affirme-t-il joyeusement. Devant le lycée, j'aperçois Gabriel entouré d'une dizaine de camarades. Je lui adresse un petit geste de la main et sur un signe de Lucien qui m'observe, quatre hommes surgissent, pistolets au poing. Quatre tractions avancent. Des hommes en imperméable noir en descendent, laissant les portes ouvertes. Ils se précipitent vers le groupe de Gabriel. Une explosion sourde retentit. Les miliciens se retournent instinctivement. Les garçons bondissent à l'arrière d'un camion qui a profité de la confusion pour s'approcher. Des salves d'armes automatiques fauchent deux des quatre miliciens et pulvérisent les pneus des tractions avant. Mais avant de rabattre la bâche sur le camion, Gabriel me regarde avec haine et mépris. Ce fut la dernière fois que je le vis. À l'aube de ce même 16 juillet 1942, au dépôt d'autobus, mon père est réquisitionné pour un service spécial. Le soir, il n'est pas en meilleur état que moi. Il ne dit rien. Ma mère pleure. Désormais, elle connaît la peur de celle dont la progéniture est en danger. J'ai failli mourir d'une balle perdue le matin devant le lycée, pris dans l'affrontement entre les miliciens et les résistants. Et puis, tout le monde sait que je suis ami avec ce malheureux Gabriel. Ah, il est courageux, Gabriel, mais me voilà compromis à cause de lui. On ne va pas tarder à venir m'arrêter, l'en est sûr. C'est pour ça que je dois partir, oui, demain sans faute, chez mon oncle. Mais me reverra-t-elle un jour ? Grâce à un collègue syndiqué des chemins de fer, mon père et moi voyageons seuls dans le train des contrôleurs. Bientôt, il parle. Il me raconte ce qui s'est passé la veille. Ce 16 juillet 1942, la rafle, le secteur hôtel de ville Saint-Paul bouclé, les stations de métro fermées. Les policiers armés poussant brutalement des familles à l'intérieur de son autobus. Oui, de son autobus. Rue du Temple, parmi les nouveaux interpellés qu'on entasse dans son autobus, il aperçoit une femme encore jeune et belle qui pleure en silence. Elle ne quitte pas des yeux une adolescente de mon âge. Une jeune fille aux longues nattes et aux jolis visages pleins de taches de rousseur. Une jeune fille qui, sur le trottoir d'en face, sanglote dans les bras d'une matrone à la poitrine consolatrice, tout en adressant discrètement de la main un salut d'adieu à sa mère. Mon père sursaute au coup de sifflet d'un des agents. Les mains tremblantes, il enclenche la vitesse de l'autobus. Surchargé, le véhicule s'éloigne lentement. L'adolescent aux longues nattes reste debout sur le trottoir, incapable de quitter le lieu où on vient de lui arracher sa mère. Patiemment, la voisine consolatrice s'efforce de la ramener peu à peu vers l'entrée de l'immeuble. Arc-bouté sur son volant, mon père se dit de toutes ses forces qu'il doit garder son sang-froid. Dans ce compartiment où nous sommes seuls tous les deux, j'en suis persuadé maintenant qu'il va saisir l'occasion de son récit pour me dévoiler ce que j'ai désormais l'âge d'apprendre. Mais il renonce, sans doute par peur de mal choisir ses mots, de ne pas savoir expliquer la force des passions qui bouleversent sans prévenir les vies humaines. Il ne me parle donc pas de Sarah, ni de sa mère, cette femme encore jeune et belle qui pleurait en silence en regardant l'adolescence sur le trottoir. Cette femme encore jeune et belle qui pleurait dans son autobus. Après un silence pesant, je demande à mon père ce qu'il a fait de ses passagers. Cette ronde infernale a duré tout le matin, tu sais, reprend-il. D'après un de mes collègues, 50 autobus ont été mobilisés. Moi, j'ai dû transporter mes passagers jusqu'au Veldiv, boulevard de Grenelle. Ils y sont encore. Et dans mon dernier convoi, les policiers ont entassé 130 passagers. 130, tu te rends compte? De 2 à 60 ans, à ce que j'ai pu en juger. La plupart debout, pressés les uns contre les autres, les enfants criaient, les femmes les rassuraient de leur mieux. Sans comprendre leurs paroles, on sentait qu'elles ne croyaient pas à leurs propres explications. Comme pour s'excuser, un des flics m'a dit « Ah, tous des juifs, des étrangers, des allemands, des polonais, des autrichiens, des apatrides privés par les nazis de leur nationalité, et réfugiés en France, des métèques quoi. » Mon père s'interrompt. Nerveusement, il fouille dans ses poches et en sort un paquet de gauloises. Pour la première fois, il me propose une clope. À cause du goût écœurant que j'ai toujours dans la gorge depuis la veille, je refuse l'offre d'un sourire timide. Mon père reprend. commençais à rouler lorsqu'un jeune homme de ton âge force le barrage de police et court dans ma direction. Je manque de le renverser. Je freine brusquement, il tambourine contre ma porte, me crie de le laisser monter. Alors je baisse ma vitre et lui dis tout bas de fiche le camp, de sauver sa peau. Il répond « Non, je veux rester avec ma mère ». Mon père se tait quelques instants. Je le presse de continuer son récit et il retrouve la parole. Le garçon semble si déterminé que je cède. J'ouvre la porte et il monte. Il me dit « Je veux partir avec elle, là-bas ». Malgré la cohue, il rejoint une femme à l'arrière, la serre dans ses bras. Au Veldiv, les policiers les font descendre précipitamment, matraquent au hasard, sans distinction. Ils les poussent dans l'un des couloirs obscurs qui mènent à l'intérieur. Le garçon courbe le dos pour protéger sa mère des coups et de la bousculade. Après, je n'ai plus rien vu. Il marque une nouvelle pause. Il allume encore une cigarette pour gagner un peu de temps. Enfin, il trouve le courage de me dire « Ce garçon, c'était Gabriel, ton copain de classe ». Je serre les poings pour ne pas hurler, je devine. L'accrochage devant le lycée a empêché Gabriel de sauver sa mère comme il l'avait prévu. Alors, il a choisi de la retrouver à tout prix. Il a dû l'apercevoir, poussé par un policier dans le bus conduit par mon père. Maintenant, ils sont tous les deux dans ce vélodrome sinistre, terrifiés sans doute en imaginant le destin qui sera le leur. Et tout cela à cause de moi, à cause de ma naïveté dont a su se jouer sans difficulté Lucien. Lucien qui guettait mon signe à Gabriel pour le désigner aux miliciens. Comment Lucien s'était-il informé de l'action programmée? Alors ça, mystère. Peut-être pas aussi abruti que je l'imaginais, le Lucien, mais en tout cas, un beau salopard. Mon père prend mon silence pour un témoignage pudique de mon émotion. Il me dit qu'il se revoit dans son autobus vide après l'expulsion violente de ses derniers passagers. Le silence brutal. Il regarde son décor habituel, les publicités illustrées pour le chocolat Meunier, les caoutchoucs, la jaunie, le cacao Barry, qui évoquent des saveurs oubliées depuis 2 ans au moins. Quant à l'affichette du café Sanka avec son arabe en burnous, elle offre un rappel lointain du soleil des colonies de l'Empire français. Et puis, la vie, interdite de cracher, placardée au-dessus de son siège, lui semble si dérisoire au regard de ce qui vient de se passer. Il quitte son siège de conducteur, reconnaissable à la marque laissée par une cigarette. Il va s'asseoir sur l'une des banquettes. Il caresse le bois verni, comme pour le consoler du crime dont on les a obligés à être les complices. Qu'a donc fait son vieux Renault TN4H pour mériter un tel sort ? Mon père ne racontera plus rien. La rafle, d'abord prévue du 13 au 15 juillet, a été repoussée au 16. Entre guillemets, par respect pour la fête nationale, imaginez un peu. Elle porte le nom de code Vent Printanier. Elle fait suite à la décision d'Hitler de déporter les Juifs d'Europe occidentale pour les exterminer. Vent Printanier, fallait vraiment être tordu pour choisir un nom si poétique pour une chasse à l'humain massive et meurtrière. L'objectif ? Arrêter tous les Juifs d'Amsterdam, Bruxelles et Paris le même jour. La France devait d'ailleurs livrer 110 000 Juifs dans l'année 1942. En accord avec le gouvernement de Vichy, dirigé depuis « la zone libre » entre guillemets par le maréchal Pétain, la police française est donc chargée d'organiser plusieurs rafles à la demande des Allemands. Le comble, c'est que les nazis ne réclamaient entre guillemets que les Juifs étrangers âgés de 16 à 45 ans. Et pourtant, le 13 juillet, le directeur de la police municipale de Paris décrète que les enfants de moins de 16 ans seront amenés en même temps que leurs parents et soi-disant pris en charge sur place par l'assistance publique. Aucun de ces 4115 enfants arrêtés ce jour-là ne reviendra des camps d'extermination. La rafle du Vélodrome d'hiver, le 16 juillet, se soldera par l'arrestation de plus de 13 000 hommes, femmes et enfants, arrêtés, internés, déportés vers Auschwitz. Quelques jours plus tard, le 19 juillet, la rafle de Nancy s'achève par « seulement » entre guillemets 32 arrestations. Il faut dire que certains policiers avaient prévenu à temps la communauté. Du coup, 350 des 385 juifs menacés purent ainsi fuir et sauver leur vie. J'aurais tant aimé être l'un de ces flics, un de ces hommes d'honneur et de courage, pour que Gabriel soit fier de moi, pour ne pas être par bêtise le responsable de sa mort. Je ne rentre pas à Paris en septembre. Mes parents me jugent plus à l'abri chez l'oncle Louis, au cœur des monts du Vivarais. L'oncle habite une petite ferme isolée à quelques kilomètres du Chambon-sur-Lignon, la ville qui, à travers les siècles, a accueilli, caché et protégé les fugitifs victimes de toutes les intolérances. Les Huguenots persécutés après les guerres de religion, les réfugiés espagnols après la victoire de Franco, et là, les enfants juifs pendant l'occupation. Louis habite seul au milieu de ses prairies, de ses chèvres et de ses ruches. L'endroit m'a toujours fasciné. J'aime marcher sur les murets limitant les parcelles. Les pierres inégales et instables se cabrent sous mes pieds. Parfois, je saute dans les genêts et entame une course folle dans la lande déserte. Je disperse les chevrettes qui bêlent de colère avant de retourner arracher les pousses des jeunes arbres. Mais en cet été 42, je cours en vain tous les jours. La honte ne se dilue pas à la sueur de mon front. Honte d'avoir eu peur, honte de penser que Gabriel croit que je l'ai trahi. Dire qu'il a suffi de quelques bières pour me transformer en indicateur de la Gestapo. Gabriel ignore le piège dans lequel ce salaud de Lucien m'a fait tomber. Il me considère assurément comme un traître. Cette idée m'est insupportable aujourd'hui encore. Je ne me suis jamais débarrassé de mon infâme et indicible secret. Un matin, l'oncle revient à la ferme accompagné d'une adolescente aux longues nattes et au joli visage plein de taches de rousseur. Elle s'appelle Sarah, elle a 15 ans, elle est juive. Maintenant, elle va vivre avec nous. On dira que c'est ta sœur. Beaucoup d'autres comme elle se cachent dans les fermes. C'est normal, il n'y a rien d'autre à dire. Et il ne dira plus rien, l'oncle Louis. Dès que nous nous retrouvons seuls, j'insiste pour que Sarah me raconte son histoire. En pleurant, elle me parle de sa mère, arrêtée sous ses yeux le jour de la rafle du Veldiv, de la voisine qui l'a recueillie chez elle, du contact qui a réussi à la faire venir jusqu'ici, chez l'oncle Louis. Dans la nature indomptée, nous redécouvrons la liberté et la joie de vivre. Et quand je n'en peux plus de désir et que ma main se pose sur l'irrésistible cambrure de ses reins, elle s'échappe, me rappelant en riant « Quelle est ma sœur, non ? C'est bien l'oncle qui l'a dit !» Et ce petit jeu me rend fou. Un après-midi, déterminé à lui voler enfin un baiser, je la plaque dans l'herbe et la serre contre moi. Elle s'écrie « Arrête, Nicolas, je suis vraiment ta sœur !» Son regard ne me laisse aucun doute, elle dit la vérité. Stupéfait, je la relâche et m'assois près d'elle. Elle me dévoile alors la vérité. Mon père est aussi son père. Mon père a connu la mère de Sarah quelques mois après ma naissance. Sa mère, juive polonaise, réfugiée en France. La France où elle croyait avoir trouvé un refuge sûr et inviolable. Sa mère pour laquelle mon père a failli quitter ma mère. Sa mère que mon père, dans son bus le 16 juillet, avait convoyé involontairement vers le Veldiv. Ce même bus dans lequel Gabriel et sa mère s'étaient retrouvés lors du même convoi. C'est lui, mon père, le contact qui a permis à Sarah de me rejoindre ici, chez notre oncle. Il leur a fait promettre de ne rien me révéler sur le lien qui m'unit à Sarah. J'écoute la tête enfouie dans mes mains. Je finis par rentrer à Paris juste avant Noël. Ma mère peut enfin de nouveau me serrer dans ses bras. Nous connaissons le pire du froid, des privations, des restrictions alimentaires, de la peur. Je retrouve Lucien. Toujours aussi blond, toujours aussi bas du front, toujours aussi con. Pour fêter mon retour, je lui propose d'aller boire un verre dans ce troquet où le 15 juillet, j'avais consommé avec lui mes premières bières, mes premières cigarettes. Mais mon séjour à la vie rude de la campagne m'a endurci. Je suis un homme désormais. Je tiens bien l'alcool et le tabac. Je renchéris même. Je lui offre d'autres bières. Quand nous ressortons du bar, il titube. Il s'accroche à mon bras en rigolant. Mais moi, je me dégage de son étreinte. Et quand le bus surgit, Lucien vacille, trébuche, s'affale sur la chaussée. Le bus met fin à la vie de ce salaud de collabo, ce sale type qui a désigné Gabriel aux miliciens. Il quitte dans un cri ce monde qui se serait bien passé de lui. Le bus est un Renault TN4H. Ça ne vous rappelle rien ? Et devinez qui est au volant. Un homme qui s'est arrangé pour conduire aujourd'hui, pour la première fois depuis des mois, ce Renault DN4H, son bus. Ce bus dont le siège du conducteur porte toujours la marque de la cigarette. Ce bus qui suinte encore de la peur et des larmes des raflés du 16 juillet 1942. Cet homme, ce conducteur, ne vous rappelle rien, c'est mon père bien sûr. N'était vraiment pas de chance pour Lucien. Sortir complètement ivre d'un troquet où sa réputation d'ivrogne n'est plus à faire et tomber sous les roues d'un bus qui passe malencontreusement au mauvais moment. Bon, à vrai dire, j'ai peut-être donné un petit coup de pouce au destin, un simple petit coup de pouce, mais suffisant pour le faire basculer sur la chaussée. J'adresse à mon père un petit geste de la main, ce même geste que j'avais adressé à Gabriel. Ce geste qu'attendait Lucien pour identifier mon camarade. Gabriel, le chef du petit groupe de résistants prêt à passer à l'action lors de la proclamation des résultats du baccalauréat devant notre lycée. Mon père, derrière la vitre de son véhicule, me fait juste un petit signe de tête. Les policiers arrêtent très vite sur le lieu de « l'accident », entre guillemets, concluent vite à une mort accidentelle causée par l'ébriété avancée de la « victime », entre guillemets. Mon père peut donc reprendre son service sans s'être inquiété. Nous n'avons jamais parlé tous les deux de l'accident. C'était inutile. Et puis il le disait souvent, les secrets doivent mourir en silence.
Ici, Lan. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Au début du mois de juin 1944, les premiers vers de la chanson d'automne de Verlaine se rappellent à ma mémoire meurtrie. Et à celle du monde entier. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ces vers diffusés par la BBC annoncent aux résistants intérieurs l'arrivée des alliés en Normandie, le débarquement. Merci Verlaine, j'aurais tellement souhaité écouter ces vers en compagnie de Gabriel. Devenir un héros à ses côtés, mourir même avec lui. À quoi bon devenir centenaire ? Je n'ai jamais revu l'oncle Louis. L'été suivant, inquiet de ne pas avoir de réponse à mes lettres, je suis retourné à sa ferme, à quelques kilomètres du Chambon-sur-Lignon. Sa plus proche voisine m'a appris tout ce que j'ignorais sur son héroïsme et celui des habitants des environs. Avec l'aide des organisations chrétiennes et des réseaux de sauvetage juifs, au moins 1000 enfants et adolescents menacés de déportation et donc d'extermination par les nazis avaient été recueillis dans les pensions de famille, les fermes, les maisons d'enfants et les écoles. À l'approche des patrouilles allemandes, les personnes hébergées partaient se cacher dans la montagne. Et après le départ des soldats allemands, les habitants allaient dans les bois en chantant une certaine chanson pour prévenir les juifs que le danger était écarté. Autant que la Gestapo, ces héros modestes redoutaient la milice française, créée en 1943 par le régime de Vichy du maréchal Pétain. Cette milice jouait un véritable rôle de supplétif auprès de la Gestapo. Sur ordre des Allemands ou encore de leur propre initiative, les miliciens participaient à la traque des Juifs et des résistants comme des réfractaires au service du travail obligatoire. Certains habitants de Chambon et des environs payèrent leur courage de leur vie. Arrêtés et déportés, aucun n'était revenu. La voisine finit par me dire ce que j'avais deviné. L'oncle Louis faisait partie de ces victimes de la barbarie nazie et de ses collaborateurs français. En moi, les larmes se mêlaient à la fierté. Après la guerre, dès la création du pays, Sarah est partie vivre en Israël. Elle se rend régulièrement à Yad Vashem, le mémorial construit dans la forêt de Jérusalem en mémoire des victimes de la Shoah. La Shoah qui veut dire « catastrophe » en hébreu. Plus de 70 habitants du plateau du Vivarais ont été reconnus juste parmi les nations par l'Institut Yad Vashem pour avoir sauvé tant de Juifs au péril de leur propre vie. L'oncle Louis fait partie de ces justes. Sarah et moi, nous nous sommes revus une seule fois, à Auschwitz, où nous nous sommes rendus ensemble. Elle pour sa mère, moi pour Gabriel, et nous deux pour l'oncle Louis. Nous n'avons pas prononcé un seul mot en franchissant la porte monumentale surmontée de son slogan sinistre « Arbeit macht frei ». Pas un mot en nous arrêtant devant le wagon de train rangé au bord du quai, où avait lieu la première sélection par les SS. La mort immédiate d'un côté, en particulier pour les enfants, la survie provisoire de l'autre. Pas un mot en visitant les baraquements où les déportés survivaient dans le froid, la faim, la terreur. Mais le pire a été de parcourir les salles, où derrière des vitrines étaient accumulées des centaines de valises, des paires de lunettes, de prothèses. Le pire peut-être, tous ces cheveux de femmes devenus gris avec le temps, ces centaines de jouets d'enfants. Et le souffle coupé en traversant les chambres à gaz en partie détruites par les nazis avant leur fuite en 1945. Ouais, pas un mot, et le souffle coupé. Mais parmi les miradors, j'aperçois des enfants jouer à se poursuivre en riant très fort. Leurs vêtements colorés, leurs jeux, leurs rires me rendent le souffle, me rendent la vie. La vie qui, même en ce lieu de mort pour l'éternité, la vie qui vit encore. Mon père n'a rien su de ce pèlerinage que nous avons effectué, Sarah et moi. Je ne lui ai jamais dit non plus que je savais. Que je savais que Sarah était ma sœur. Mon père le disait souvent, les secrets doivent mourir en silence. Et les antivax, avec leur étoile jaune et leur passe nazitaire, entre guillemets, feraient mieux de se taire. Mais comment osent-ils ? Moi, le presque centenaire, épuisé par les ans et les souvenirs, je vais me lever et je vais le leur dire. Me lever pour leur raconter l'histoire de Gabriel et de sa mère, de la mère de Sarah et de l'oncle Louis et de ces millions d'autres dont ils souillent la mémoire. Je ne veux plus que les secrets meurent en silence. Je ne veux plus être lâche. Les Sarah, les Gabriel et les oncles Louis d'aujourd'hui ne doivent jamais avoir peur de monter dans un bus ou dans un train. C'est sur ces secrets enfin révélés que se termine notre rendez-vous compte de ce jour consacré à la lettre S, S comme secret, S comme silence, une rediffusion de mon émission du 3 novembre 21, écrite pour dénoncer ceux qui, en pleine épidémie mortelle du Covid, osaient comparer le passe sanitaire au passe nazitaire. Comment osait-il mettre en parallèle les mesures de bon sens, le masque, le vaccin, le passe, avec les rafles opérées pendant la Seconde Guerre mondiale par la police française pour livrer des hommes, des femmes et des enfants aux déportations et à l'extermination voulues par les SS. Tiens, double S. Heureusement, à cette époque, des policiers et des hauts fonctionnaires ont sauvé l'honneur de l'humanité en réduisant l'impact des rafles ou en s'engageant dans la résistance. C'est justement ce qu'est venu expliquer à ce même micro, il y a pratiquement un an, M. Bruno Leroux, éminent spécialiste de la résistance, venu nous présenter les mémoires d'un de ses héros. Extrait de l'émission, rediff dans la rediff.
Son nom est Jacques Lecomte Boynet. Il est un des très rares résistants qui a été nommé compagnon de la libération par le général de Gaulle. Ses mémoires viennent d'être publiées par les éditions du Félin sous le titre « Mémoires d'un chef de la résistance, zone nord, Alger, Londres, Paris ». Comme il s'agit de carnets tenus pendant la guerre et de souvenirs écrits juste après, il fallait expliquer beaucoup d'allusions à des événements aujourd'hui oubliés et aussi faire revivre un peu les dizaines de résistants et camarades dont il parle. J'ai donc fait une édition critique avec pas mal de notes explicatives. Mais le jeu en valait vraiment la chandelle, car c'est un témoignage exceptionnel, presque unique. Par exemple, il a tenu un journal clandestin au jour le jour, en plein Paris occupé en 1944, où il a consigné tous ses rendez-vous avec les chefs de la résistance dont il faisait partie.
Eh bien, vous pourrez retrouver M. Leroux lors de la conférence qu'il consacrera à ce résistant, ce samedi 17 juin 2023, pour l'association Point de Suspension, à Saint-Leu-la-Forêt, salle des arts créatifs, en contrebas du marché, à Saint-Leu donc, à 17h. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delatte sur IDFM. À la semaine prochaine. Même heure, même adresse. En attendant, voici sur le terrain l'émission qui laisse la parole aux Valdoisiens et qui présente tous les événements de notre département sur IDFM Radio, évidemment.